Ouais, Daniel, concernant la promotion d'Éric Besson, il y en a qui l'appellent Besson le traître, Besson le félon, et ben moi je l'appelle Besson le pantalon. Salut Daniel.
Allô, bonjour à tous les auditeurs modestes et géniaux de cette belle émission modeste et géniale. Je suis allé sur Google et j'ai fait la recherche sur un mot, le mot suppression. Et on trouve 30 millions de liens et on trouve comme titre suppression du juge d'instruction, suppression de 20% des postes à RFI, suppression de la pub à la télévision, les nouveaux suppressions de 2500 emplois, suppression de l'aide au transport, Avaléo, suppression de 178 postes, suppression de la demi-part fiscale, 3 600 000 veuves et veuves concernées, modalité de l'application de la suppression de la mise à la retraite d'office, suppression de la prescription décennale en matière criminelle, suppression de 8000 emplois par neteco.com, Hôpital du Havre, plan de suppression de 800 emplois, Sony, annonce de la suppression de 8000 emplois, Nokia, suppression de 1000 emplois, suppression de la déclaration de ressources à la CAF, suppression de la carte scolaire, suppression de lignes SNCF, suppression de 30 000 postes de fonctionnaires, Motorola, alourdi la suppression d'emplois, suppression de l'aide ménagère à domicile, suppression des départements, suppression des cérémonies des vœux, suppression des accents, suppression du ministère de la Culture, des casernes, des hôpitaux, des classes, postes, etc. Voilà. Pour Sarkozy, faire la réforme, c'est supprimer, c'est-à-dire tuer. Alors avant que le droit de grève ne soit supprimé, je propose à tous et à toutes, le 29, une grande grève générale pour supprimer cette espèce de despote tueur de tout ce qui pouvait nous protéger un petit peu quelque part. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle année pleine de réalisations et de construction et de lutte. Philippe de Pélissane.
Bonjour à toute l'équipe de la base, j'y suis. Avis à tous les AMG du pays de Rennes, du pays des Vallons de Vilaine, du pays de la Rechauffée, du pays de Châteaubriand, pays de la Mée. Ouverture d'un repère de là-bas si j'y suis, au bistrot Roguin à l'Alleux, petite commune tapis dans l'ombre, au sud de l'Ille-et-Vilaine. Premier rendez-vous le dimanche 18 à 15h, chez Madeleine et Jean-Yves, au bistrot Roguin à l'Alleux. Je répète, premier rendez-vous le dimanche 18 janvier à 15h chez Madeleine et Jean-Yves au bistrot Roguin à l'Alleux. Venez nombreux et nombreuses. Merci, à bientôt.
29.
29.
29.
29.
29.
29. 29. 29. 29. 29.
29.
29.
29.
29. Oui, bonjour, Christophe du cinéma Louis d'Aquin au Blanc-Mesnil. Voilà, c'est un message aux auditeurs de là-bas si j'y suis. Je vous informe de la présence de Daniel Mermet le lundi 19 janvier à 18h15 au cinéma Louis d'Aquin au Blanc-Mesnil, donc dans le 93. Daniel viendra débattre avec les spectateurs après la projection de son film Chomsky et compagnie. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter le 01 48 65 52 35. Donc je vous rappelle, le lundi 19 janvier à 18h15 au cinéma Louis d'Aquin au Blanc-Mesnil. Voilà, merci, venez nombreux, au revoir.
Et voilà, et après ça on dit qu'il n'y a pas de pub à la radio. Hein, ça c'est de la réclame, de la vraie réclame. Donc lundi, projection de Chomsky et compagnie, vous avez compris, au Blanc-Mesnil, c'est dans le 9-3 le Blanc-Mesnil. Le numéro qui vient d'être donné, c'est 01 48 65 52 35 pour cette projection suivie de débat. Il y en a beaucoup d'autres dans cette fin de semaine. Vous pouvez aller sur le site du film Chomsky et compagnie pour voir les projections et celles qui sont suivies de débat. Pour ce qui me concerne, je serai demain soir à Millau. pour la projection donc suivie du débat. Et puis dimanche à Albi, je crois que la projection est à 14h. Voilà, mais il y en a beaucoup d'autres. Allez voir sur le site ou sur labas.org, vous trouvez toutes ces précisions. Merci pour vos messages, chers AMG auditeurs, auditrices modestes et géniaux et géniales. Aujourd'hui, Gaza. L'autre jour, on a parlé avec ceux qui sont enfermés dans cette prison à ciel ouvert, bombardés, massacrés, martyrisés, comme vous le savez. Et bien sûr, la neutralité est impossible, le silence est impossible, savoir et ne rien dire, c'est être complice actuellement, c'est très très clair. Donc, des discussions, des paroles avec des Israéliens, avec des ceux de Gaza, avec des journalistes, avec tous ceux qui peuvent nous faire vivre et un peu comprendre ce qui se passe dans cette partie du monde. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, c'est Manu de Grenade en Espagne, en pleine manifestation contre les massacres de Gaza. Voilà, je voulais faire écouter un peu l'ambiance. Voilà, continuons.
Bonjour à tous les AMG, salut Daniel, bienvenue dans notre beau pays de France. Aujourd'hui, la justice a rendu et rend des verdicts. Exemple, un policier meurt dans une échauffourée sur un manège à la foire du trône. C'est regrettable, c'est sûr, mais le suspect encourt jusqu'à 20 ans de prison. Hier, une bande de malfrats, médecins et pharmaciens entraîne la mort de plus d'une centaine d'enfants et d'adultes par des manipulations plus ou moins frauduleuses de certains organes corporels. Relax, général. Choisis ton camp, camarade.
Bonjour Daniel, bonjour les AMG. La 4e armée du monde, Israël, déversa un déluge de feu sur un territoire grand comme une fois et demie l'agglomération de Marseille et composé à 56% d'enfants. Quel courage! Les roquettes du Hamas ont fait 11 morts en 8 ans. La puissance de feu d'Israël a fait plus de 1040 morts, dont 400 femmes et enfants, et 4800 blessés, dont beaucoup resteront handicapés à vie, et cela en seulement 3 semaines. La vie d'un Israélien vaut-elle plus cher que celle de 100 Palestiniens? Question à poser à notre cher président Sarkozy. Remplacez Israéliens par Serbes et vous verrez les réactions indignées du monde entier, en commençant par la France et les États-Unis. Ah, j'oubliais, il paraît qu'Israël fait partie du monde libre et défend la démocratie. C'était Gilbert de Marseille.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Ventil et Anis Gentil. Savoir et ne rien dire, c'est être complice. Gaza.
Allô, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Oh, pas trop, hein. Ça va pas. Il y a des incendies, on sent il y a la fumée partout. C'est infernal, c'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer. Avant, il y avait les enfants avaient peur, les femmes avaient peur. Maintenant, même des hommes ont peur. Hein. Tout le monde a peur. L'avenir est noir. Moi, je vois pas ce que je peux vous dire. Je sais pas. Si on va vivre d'ici la nuit ou je sais pas. Je suis très pessimiste. Hein.
Et comment la situation a évolué depuis qu'on s'est parlé la dernière fois?
Bah, de pire en pire. Hein. Moi, je vois. Avant, on disait bon, ça n'allait pas. Mais maintenant, il y a moins de nourriture, moins d'électricité. Et la semaine dernière, on a eu droit à l'électricité 2 jours, durant une fois 2 heures, une fois 5 heures. Depuis plus de 36 heures, on n'a plus rien. Et puis, le portable, ça ne fonctionne presque plus.
Alors, mais vous avez des trêves maintenant dans la journée?
Oui. Et jusqu'hier, la trêve, on a pu quitter la maison. Il y avait des coups de feu et puis des explosions, surtout au début et à la fin. Mais maintenant, je ne vois pas de trêve. On ne peut pas parler de trêve aujourd'hui. On a entendu des explosions partout, partout, partout. Ils ont dit que c'était de 11h jusqu'à 16h. Mais moi, je n'ai pas senti de trêve, pas du tout. Mes voisins non plus.
Alors, mais vous sortez de chez vous quand même de temps en temps?
Oui, jusqu'à la semaine, jusqu'à hier. Mon mari est sorti hier. Aujourd'hui, non, c'est presque impossible. Et si vous sortez, vous risquez votre vie. Hein. On a des feux partout. On ne sait pas d'où, de ce côté ou de l'autre. Hein. On ne peut pas savoir.
Mais alors, comment vous faites pour trouver de la nourriture?
Surtout des légumes secs, vous voyez, des lentilles, des légumes secs, etc. Et puis des biscottes, on a du riz. Mais ce n'est pas de la nourriture fraîche. Hein. On vit au jour le jour, hein. Ça je vous l'assure.
Mais Mirvat,
oui.
Je suis avec Anis ici.
Oui.
Bonjour Mirvat.
Bonjour,
oui.
C'est Anis?
Oui, c'est Anis qui parle.
Oui, vous l'avez bien échappé, hein, belle. Hein,
oui, on est sortis, partir, mais notre cœur et nous pensons toute la journée à vous. On ne peut pas dormir non plus.
Oui, on n'a pas dormi hier soir, ni il y a... Ça fait 3 nuits qu'on ne dort pas. On ne dort pas. On ne dort pas du tout, hein. Même le jour. Si on essaye de dormir, ce n'est pas possible. Comme je l'ai dit l'autre jour, c'est le cataclysme. Partout, c'est détruit. Partout, partout, partout. C'est l'enfer, comme je vous l'ai dit. Je ne sais pas si on va tenir le coup jusqu'à 2 ou 3 jours. Ils disent, d'après les médias, ils disent que ça va rester au minimum 2 ou 3 jours. Mais je ne sais pas si on va tenir le coup, j'espère. Mais c'est lent, le temps passe très très lent. Ça ne passe pas, hein. Moi, je regarde la montre, je regarde mon réveil, c'est toujours 1 heure. Hein. J'ai une petite valise à côté de moi, si jamais un incendie arrive ou quoi que ce soit arrive, hein, tout ce qui est très important, on est obligé d'évacuer. Hein. Je ne sais pas comment on va y aller. Il n'y a pas un endroit sécurisé à Gaza, pas un endroit.
Mais alors, dans cette histoire, parce que puisqu'on dit que c'est une guerre... Une guerre, il y a ceux qui la gagnent et il y a ceux qui la perdent. Est-ce que vous vous préoccupez de ça? Est-ce que vous pensez à ça?
Non, ce n'est pas notre préoccupation maintenant. Maintenant, notre préoccupation, c'est de survivre. On s'en fiche carrément maintenant. Ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas nous qui avons déclenché la guerre. Hein. Nous, c'est la population. C'est pas... On y est pour rien. On a un sentiment d'impuissance terrible. Parfois je suis optimiste, parfois je suis pessimiste, je sais pas. Ça dépend des moments, ça dépend des bombardements, ce que j'entends, ce que je vois, ce qu'on me dit. C'est aussi une guerre psychologique.
Bien sûr. Bon courage.
Ouais. Merci.
À très bientôt, Mirvat, on vous rappellera.
Oui, peut-être à des jours meilleurs.
Ah oui, bien sûr.
Il faut garder l'espoir, c'est comme elle a dit.
Oui.
Mahmoud Darwish, elle a dit, nous souffrons d'une maladie incurable qui s'appelle l'espoir.
Oui, incurable, voilà, c'est incurable. On a même des lunettes noires à côté de mon lit, et puis on nous dit, si jamais il y a de la fumée, vous faites ceci, vous faites cela.
Pourquoi des lunettes noires?
On nous a dit, s'il y a les bombes de phosphore blanc, ce qu'on appelle le phosphore, si jamais mettez des lunettes noires, même si ça sera la nuit.
Pour protéger les yeux, parce que ces fumées-là sont chimiques et ça brûle. Ouais. Ça brûle la peau et ça détruit
la
les
peau,
yeux.
Oui. Mais je ne sais pas si on pourra faire ça à ce moment-là ou ça sera trop tard, je ne sais pas. C'est peut-être bête, ça me rassure un peu, mais je me dis si c'est Dieu qui va nous envoyer quelque chose, on va l'avoir, hein, c'est tout. Hein.
Ah. Ok, Mirvat, mais courage. On vous souhaite beaucoup de courage.
Courage.
Merci, au revoir.
Au revoir,
merci
au revoir.
Pour votre appel. Au revoir.
تعال نجد المنى والغرام كفانا البعد غيام تعال قبل انقضاء الشباب وموت الحب وانقطاع الرذاب أنت الهوى أنت ملء الأمان حياتي أنت فداك أنت دنيا الغد الأحلام الغد والقبل وكل الأمل حرام كفانا البعد وغيام تعالى قبل انقضاء الشباب وموت الحب وانقطاع الرذا أنت الهوى أنت ملء الأماني حياتي أنت فداك أنت دنيا الغد الأحلام الغد والقبل وكل الأمل تعالى نشد المنى والحرام قبل انقضاء الشباب وموت الحب وانقطاع الردى أنت الهوى أنت ملء الأماني حياتي أنت فداك أنت دنيا الغدى الأحلام والغدى والقبل وكل الأمل
أوري أبنيري بونجور
Hello.
Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, Uri ?
Je
suis un militant de la paix, du mouvement Gush Shalom, ça veut dire le bloc de la paix.
And a former member of the Knesset.
Et ancien membre du Parlement israélien.
Uri Avneri est une grande figure intellectuelle et activiste, comme il vient de le dire lui-même, israélienne. Il est né en 1923, il a un parcours... tout à fait singulier, et il est à la fois un écrivain et un éditorialiste et l'animateur et le créateur de Gush Shalom, c'est-à-dire le bloc de la paix. Il fait partie aujourd'hui de cette minorité, petite minorité d'Israéliens opposés à ces opérations à Gaza. Minorité qui changera, on connaît le processus et nos amis israéliens nous l'ont rappelé, c'est ce genre d'offensive, ce genre de guerre sont soulevés, accompagnés par les opinions, par les populations qui espèrent que ça va être la solution, la grande guerre fraîche et joyeuse. Et à chaque fois, évidemment, au bout d'un moment, ça se retourne et ça tourne à la tragédie et à l'interminable gueule de bois. On verra tout à l'heure les jeunes de Breaking the Silence qui observent et décrivent les traumatismes à long terme subis par les soldats et les soldates de l'armée israélienne qui sont amenés à faire un certain nombre de choses et ils nous diront, ils nous rappelleront la corruption morale profonde qui s'est installée dans cette société pour des épisodes historiques précédents qui ressemblaient beaucoup à celui-là. Je voulais dire une chose, on entend la voix de Annie Gentil. Annie Gentil est un ami de Gaza et à plusieurs reprises il a été à la fois notre fixeur et notre interprète dans nos reportages à Gaza, et depuis très peu de temps il a fini par se résoudre la mort dans l'âme à cause de ses enfants à rentrer et à vivre à Paris. Mais aujourd'hui il vit chaque seconde, chaque minute de ce qui se passe à Gaza, il est informé et il ne dort pas plus que ses amis et gens de sa famille de Gaza. Donc, discussion avec Uri Avneri à Jérusalem. Comment vous analysez la situation actuellement concernant Gaza ?
Well, the situation is terrible.
C'est terrible.
But it seems that the Israeli government has decided to stop the action for two reasons.
Mais j'ai l'impression que le gouvernement israélien a pris la décision d'arrêter maintenant les opérations pour deux raisons.
Because any new step would mean conquering the city of Gaza, which according to Israeli army estimates would cause about 200 Israeli casualties.
D'abord parce que tout pas militaire en avant signifierait de conquérir Gaza, ce qui, selon les experts militaires israéliens, coûterait la vie d'au moins 200 soldats israéliens.
And the second reason is that Mr. Barack Obama will enter the White House next Tuesday. He could be very angry if the war is still going on.
Et la deuxième raison, c'est que M. Barack Obama va entrer dans son bureau de la Maison-Blanche mardi prochain et risque de très mal prendre si la guerre continue à ce moment-là.
Uri, quel est le sens de ce qui se passe actuellement? Est-ce que ça a un sens?
I think the whole world does not make sense.
Le monde entier n'a pas de sens.
But now it does make even less sense.
Mais maintenant, c'est encore plus absurde.
The fact is that no one is winning this war.
La réalité, c'est que personne ne gagne cette guerre.
The Israeli side may win some points on the ground.
Peut-être que les Israéliens vont marquer quelques points sur le terrain, bien sûr.
But the Palestinian side will say that the fact that after 3 weeks Hamas is still standing and fighting is by itself a huge victory.
Mais de l'autre côté, du côté palestinien, ce qu'on va dire, c'est qu'après 3 semaines de conflit, le Hamas est toujours là, le Hamas est toujours en train de se battre, et pour eux, ça sera considéré comme une victoire.
Uri, ce qui est frappant ici en France, c'est à quel point l'image d'Israël se dégrade à travers le monde.
L'Israeli peace movement has protested against this war from the first moment.
Dès le premier jour, le mouvement pour la paix en Israël a protesté contre cette guerre.
And one of the reasons was exactly this, that this war, the way it was being fought on our side, does immense damage to the image of Israel throughout the world.
Et c'est une des raisons pour lesquelles on s'est opposé à cette guerre. C'est justement cette guerre allait nuire terriblement l'image d'Israël dans le monde.
But I would like to emphasize a second point.
Mais je voudrais insister sur un autre point.
It does immense damage to the image of the Arab governments which are supporting Israel.
Le problème, c'est que ça a aussi des dommages terribles en termes d'image pour les pays arabes qui soutiennent Israël.
Millions and millions of Arabs and Muslims who have seen the images on Al Jazeera 24 hours a day.
Il y a des millions d'Arabes et de musulmans à travers le monde qui voient ces images sur Al Jazeera nuit et jour.
And have seen how the behavior of the Arab governments cannot but have complete contempt for the Arab regimes.
Et ils voient surtout le manque de réaction de leur propre gouvernement, ce qui augmente aussi la colère de l'opinion publique des pays arabes.
This can have far-reaching consequences in the coming years.
Et ça peut avoir des conséquences très très néfastes à long terme dans les années à venir.
If all these governments will fall one after another,
et chacun de ces gouvernements, ces pouvoirs vont s'écrouler les uns après les autres,
the only alternative in the Arab world is Islamic fundamentalism.
Et alors, la seule alternative dans le monde arabe, face à ces politiciens qui seront compromis, ce sera, aux yeux de l'opinion publique, les fondamentalistes islamistes.
Est-ce que vous pensez sérieusement, Uri, qu'un jour les Palestiniens auront un État?
I'm quite sure. I'm an optimist by nature.
Je suis quelqu'un d'optimiste par nature, donc j'en suis assez sûr, oui.
There is no other solution.
Il n'y a pas d'autre solution.
The only alternative is to go on with the present situation, which will lead to one disaster to another.
La seule autre alternative, c'est de rester dans cette situation dans laquelle on est aujourd'hui, qui ne peut nous amener que d'un désastre à un autre.
Ok, merci beaucoup.
Thank you very much.
Thank you. Shalom.
Merci, Shalom. Shalom.
Shalom. Shalom. Shalom.
Merci beaucoup.
Came with ships to the Holy Land, and nowadays they don't admit it's a stolen land. I throw a rock with a swollen hand, dig it in the earth and raise my fist with the golden sand. But they came back with F-16s and tanks. Assassins were high ranks, so we settled for Gaza, the West Bank. Started putting checkpoints to divide us even more. A settlement on every hilltop got an unsettled score. Made the anger inside us eager to explode. Intifada 1 and 2 let the rage unload. But they built a wall around us and called it a fence. They murdered my people and labeled it self-defense. Cause while they're choosing to be the chosen ones, by God, they're choosing us to be the ones to eat shit and run. But nevertheless, I carry the slingshot in my right hand, stone in my left. Who am I just to now come up the pain and the death? Resistant to the rain and the theft. As long as my voice producing tones on a cleft, I'ma keep spitting till I'm all out of breath. And all out of time, see
the future ahead. Try to climb, but you're practically dead. Reminded you're from Palestine, pushed way behind on the line. Yo, all I want is what's mine, and I'll be fine. I'm not asking for much, but still declined. I guess it's hatred from my kind, because the news plants it in their minds. Redesigns and repulsively defines me for their headlines. I never knew that freedom had a deadline. I never knew that freedom had a deadline.
This is a Zionist story, Zionist history. 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 This is a Zionist story.
Allô?
Allô? Munzer?
Oui, c'est moi.
Bonjour Munzer, c'est Anis.
Ahlan Anis.
Ahlan.
Comment ça va?
Ça va et toi?
Je suis toujours vivant.
D'accord, c'est très bien, c'est très bien.
Je tiens à la vie. On essaie de survivre.
Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fais à Gaza en ce moment?
Bon, ok, je vais essayer de vous mettre en scène, si je peux le dire, dans ma maison. À partir de ce moment-là, là, le soir, on essaie de, comme les chats, on essaie de trouver le coin le plus sûr de mettre nos enfants pour essayer de leur protéger. Mais nous-mêmes, à vraiment dire, c'est mieux qu'on parle français parfois devant mes enfants parce qu'ils ne comprennent pas le français, bien sûr. Seulement bonjour, bonsoir. Et c'est déjà beaucoup. Alors, on essaie d'être strong, comme on dit en anglais. On essaie d'être fort, costaud. Mais là-dedans, on est des êtres humains. On a peur, on panique, mais avec le temps, on est vraiment champion de cacher nos enfants. Alors, ce que je fais moi-même avec ma femme, là, on essaie de dormir, on est cinq, ensemble. Alors, à 10 heures, j'essaie de mettre la tête de mes enfants au-dessus de matelas, au-dessus de coussins, au-dessus de couvertures. Tout ça juste pour une simple raison. Quand il vient le moment de mourir, je m'excuse. On essaie d'éviter de voir l'homme mourir.
On sait que c'est très difficile, Munzer, parce que tu parles de tes enfants, de la vie des gens qui sont... Et j'espère que tu ne vas pas les voir mourir et que la vie va gagner tout. Il espère qu'il ne va pas voir ses enfants mourir devant lui.
C'est dur,
il faut garder c'est dur, l'espoir.
C'est dur,
oui.
C'est dur, Anis, quand on voit les hommes pleurent, c'est dur. Mais quand même, on pleure, on est des êtres humains, on pleure. On a des rêves, nos enfants ils rêvent, mais maintenant on essaye de donner l'impression aux enfants que le jour qui vient demain c'est seulement l'avenir qu'on aille. Après demain on ne sait pas. Tous les peuples à Gaza ils sont des cibles. C'est un grand monde quand on dit on est derrière les résistances, on est derrière Hamas. Hamas n'ont pas des logos sur leur tête disant qu'ils sont de Hamas, non. La femme qui a perdu son enfant, qui a 12 ans et demi dans ses bras, il n'est pas Hamas. Le peuple palestinien n'est pas Hamas. Ils ont créé Hamas. Ils ont créé pas Tzizak depuis des années. Ils ont créé Hamas.
Tu considères que c'est Israël qui a créé le Hamas?
La haine. Hamas, c'est la réaction de tuer les autres.
غابة زنبق تحت الغروب وأهدي وأعرف أمامك وأقول الوداع نلتقي في ذات يوم Thank you.
Allô, allô.
Yes.
Michael.
Yes. Okay, my name is Michael. I live in Jerusalem.
Je m'appelle Michael et j'habite à Jérusalem.
Breaking the I work in Breaking the Silence, which is an organization of veterans of the Second Intifada. We were all soldiers of the Second Intifada.
Je travaille donc avec Breaking the Silence, rompre le silence, briser le silence, qui est une organisation de vétérans, de soldats qui ont servi pendant la Deuxième Intifada.
And what we try to do is explain to people about the occupation through our own experiences.
On essaie d'alerter l'opinion des gens sur l'occupation et les conséquences de l'occupation.
Voilà, Michael de Breaking the Silence, dont je vous parlais tout à l'heure. Cette association, on les avait rencontrés il y a quelques années dans au cours de nos reportages, et on avait trouvé leur travail très, très, très efficace sur les effets longs qui durent très, très longtemps dans les consciences, dans la psychologie, dans les comportements de ces vétérans, enfin, c'est-à-dire ces gens, ces jeunes, qui se sont battus lors de la deuxième intifada, ce que ça fait sur la longueur aux hommes et aux femmes, puisqu'il y a pas mal de femmes dans l'armée israélienne, et sur la société tout entière, et leur volonté de regarder ça en face, de rompre ce silence et ce déni, et inviter la société israélienne à regarder ses réalités en face. Là, ben voilà, à nouveau, ce sera toute une génération qui sera marquée par ce qu'elle est en train de faire, parce que ce que le gouvernement israélien fait faire à cette jeunesse et à cette génération. Je voudrais revenir un petit peu sur Monzer qu'on vient d'entendre dans le témoignage suivant, précédent depuis Gaza. Il a fait ses études en France, ses études d'ingénieur de l'eau, dans les équipements d'eau. Et ça a été son travail pendant des années. Ça a été son avec enthousiasme, avec ténacité. Il a travailler à l'installation de l'eau dans des quartiers de Gaza ou de Gazaville, et évidemment tout ça s'est effondré, c'est un effondrement, mais c'est en même temps son effondrement à lui. Donc rencontre avec Michael de Breaking the Silence. Comment vous analysez ce qui se passe? Quel est votre sentiment?
My feelings are very bad. We're dropping every time into a new and new low, moral low.
Ouais, mais je me sens très mal parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois on s'enfonce davantage.
Every couple of years we do something worse in the name of occupation, and then it just gets worse and worse.
Tous les deux ans on fait quelque chose d'encore pire que ce qu'on avait fait auparavant, et tout ça au nom de l'occupation, et ça s'empire d'année en année.
Mais comment vous expliquez que la majorité, la quasi-totalité des Israéliens sont derrière leur armée, derrière cette politique, et la soutiennent?
I think that for a just reason, a lot of people in the country, and me as well, were very upset with the violence which is towards the residents of the south of Israel.
Bah, c'est déjà parce qu'il y a vraiment un mécontentement et vraiment une inquiétude qui est partagée par une grande majorité du pays, et moi aussi, par les attaques contre les habitants des villes israéliennes du sud.
And you must understand that this violence has been going on for a very long time, the Qassam rockets.
Et ces roquettes Qassam, donc ces tirs ont continué, et cette violence a duré pendant longtemps.
And I think many Israelis just want to feel like they're doing something to fight back.
Et j'ai l'impression que beaucoup d'Israéliens ont le sentiment qu'en faisant ça, ils sont en train de se battre contre ces roquettes, que ces opérations servent à combattre ces attaques.
What our question is in breaking the silence is whether this is the right thing to do, and also what are the consequences of acting the way we're acting.
Mais ce qu'on met en doute dans breaking the silence, c'est 1, est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire, et 2, quelles vont être les conséquences de ces opérations pour le plus futur.
Est-ce qu'il y a des cas de désertion ou d'insoumission?
Yes, I think I know there are soldiers who have refused to serve, but they're not connected specifically with our organization.
Nous personnellement à breaking the silence. On n'a pas d'action sur les soldats qui refusent de participer ou qui refusent, objecteurs de conscience, même si on a entendu effectivement des histoires de soldats qui refusent de servir.
Oui, ce sur quoi vous travaillez, vous, Michael, avec Breaking the Silence, c'est les conséquences à long terme de ça. Les choses qui sont immatérielles, qui sont difficiles à mesurer, et notamment la corruption morale qui gagne toute la société, à commencer évidemment par sa jeunesse.
Exactly. We're trying to explain that all of these soldiers who everybody is proud of now that they're doing all this will sooner or later come back to Israeli society with a very, very violent path.
Voilà, c'est exactement ça. On essaie de comprendre que tous ces soldats que tout le monde soutient comme étant en train de faire la bonne chose en ce moment, ils vont un jour ou l'autre revenir dans la société israélienne avec tout ce passé, tout ce passif de violence.
Et vous avez fait un travail, si on peut dire, sur les témoignages des femmes, parce que dans cette armée israélienne, il faut le rappeler, il y a des femmes.
Yes, that's true. Even in the Gaza operation today, a lot of the people who are sitting on the radios, directing the rockets to their destinations, all sorts of things like that, a lot of them are women. It's not only a male thing.
Oui, oui, c'est pas une affaire d'hommes uniquement. Et même aujourd'hui, en ce moment, dans les opérations de Gaza, il y a beaucoup de femmes qui sont présentes, par exemple, à la radio pour pouvoir indiquer les cibles pour les attaques, pour les frappes.
Mais la vie ne doit pas être facile en ce moment quand on pense comme vous pensez.
I think, yeah, it could be better. I think that's something which audiences need to know as well, that people who have been protesting against the war, Israelis who have been protesting against the war, the Israeli police has been very hard-handed with them.
Oui, oui, c'est pas très facile. Et d'ailleurs, je veux dire à vos auditeurs que les gens qui manifestent, les Israéliens qui manifestent en ce moment contre la guerre, la police anti-émeute est particulièrement féroce avec eux.
Et vos compatriotes arabes et les Arabes israéliens?
Well, in the instance of protest, most of the people who are getting arrested are actually Arab Israelis.
Et ben en fait, à vrai dire,
I think the numbers are over 700.
Il y en a plus de 700 qui ont été arrêtés justement au cours de ces manifestations, et pendant ces manifestations, c'est toujours eux qui se font arrêter.
OK. Merci beaucoup. Thank you very much.
Thank you very much. Bye bye.
عشان يبنوا الحيط فرجعت انهم اتلثم بس عيني مبينين من ورا القناص معاي رصاص بس تلف الباص مركي سبته كم الراس عين تستنى وعين تتمنى يكون في طريقه تانية مش عارف رايي بتغير كل ثانية عقلي طار افكار مثل النار حامية انا مين ضحية سياسة الخاينين المحتلين المتحكمين في البني ادمين احنا كنا للشو عايشين ولا ميتين المشكلة انهم مش عارفين انجنيت صارت حرب اهلية من جواي بين الخير والشر الانتقام في دمي بس بعد كل عملية شعبي اللي بينضر كمان فلسطيني بينطر من بلده فجأة الباص مر اصبعي بده يطلق بس ايدي بدها تترك فلسطين انا مثلك محتار ومنهار محروم من حقي عالان بين خيارين ومش عارف شو انقي الحياة ولا الموت بس صوت عم بسمع الصوت
Just an everyday Joe blogs caught up in war fogs on road shoot with their bodies being eaten by dogs worried room septic feel poorly hid up in a house telling story horror glory town to the front line no glory pain So number 24 name Abdurrahman Walaikum Salam Salam Alaikum at the brain Prisoner with a maddest wisdom Strong character of noble standing conviction Beautiful citizen treated like dirt Told me the story about his daughter And how much it hurt little Jude Meaning generosity gift from Allah Giving to the world so much inshallah Sister to Salam Peace Sister Harrier freedom After work 30 hours a week just to feed them To see them grow strong live prosperous and long Not to die far from a beef 52 bomb, Jude on the back, peddling along. I'm in a Nancy Asher show. Habibi Arab moves, dark shadows appeared as she steered the back to the curb. Metal monsters heard muttering a last word. Cry daddy, I spy baddie. Bottom drop, tan, Aggie, rubble, wormwood, fag, ashy. Napalm, Nagasaki, Black Leon, Birdman. Just another day in another occupied tan.
Allô?
Oui.
Oui, Pierre Barbancet, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes journaliste pour l'Humanité.
Oui.
Voilà. Et vous êtes où en ce moment?
Là, en ce moment, je suis en Égypte, à Esrich, à une cinquantaine de kilomètres du village de Rafah, égyptien, près de la frontière avec Gaza, pour essayer de passer, puisque de tous côtés, pour l'instant, on nous empêche de passer.
Voilà, on vous empêche de passer. Quelle est l'ambiance pour les journalistes qui essayent de couvrir ce qui se passe à Gaza?
Côté israélien, je dirais, vers le sud d'Israël, vers Sderot, c'est très compliqué de travailler parce que on peut même pas aller sur le terminal d'Erez, donc c'est-à-dire vraiment la dernière limite avec Gaza. Donc on est plus cantonné vers la ville de Sderot.
D'accord.
Mais côté égyptien, c'est aussi compliqué parce que de toute manière, on n'a pas la possibilité de passer pour l'instant dans la bande de Gaza puisque les Égyptiens le refusent pour les journalistes. Donc, mais en revanche, il y a des ambulances et des blessés qui sortent de Gaza côté égyptien, et donc on peut avoir un certain nombre de témoignages.
D'accord, alors je suppose qu'il y a beaucoup de journalistes de ce côté-là.
Bah, il y a beaucoup de journalistes de chaque côté. La seule différence côté égyptien, c'est que on n'a pas ces porte-parole de la communication de l'armée israélienne qui viennent nous dire quoi penser sur ce qui se passe dans Gaza et qui insultent les journalistes palestiniens qui se trouvent à l'intérieur de la bande de Gaza.
À quoi ça ressemble du côté de Sderot? C'est un journalistan?
Il y a un grand barnum médiatique, puisque régulièrement il y a des plateaux télé qui sont faits avec en arrière-fond dans la journée ce qui se passe dans la bande de Gaza, et la nuit particulièrement, puisqu'on peut voir évidemment les grandes lueurs, les blasts des bombes et des missiles balancés par l'aviation israélienne. Et puis, bon, avec évidemment les bruits sourds des canons, des chars qui sont rentrés dans Gaza, comme vous le savez, et puis aussi des navires israéliens qui sont au large des côtes de la bande de Gaza et qui pilonnent notamment la ville, ce qu'on appelle le Gaza City, la ville elle-même. Et puis, on a tous des contacts à l'intérieur de la bande de Gaza, des Palestiniens, pas simplement des journalistes, des simples citoyens palestiniens que nous avons pu connaître en allant dans la bande de Gaza et que nous essayons d'interroger pour ceux qui ont encore de l'électricité, qui peuvent recharger la batterie de leur téléphone cellulaire, essayer de les interroger, de nous dire comment ça se passe, de nous décrire un peu ce qu'ils voient de leurs fenêtres, pour ceux qui peuvent encore accéder aux fenêtres, parce que les feux sont assez intenses dans certains quartiers de Gaza City, ou de savoir quelles sont les conditions humanitaires là-dedans. Et puis aussi maintenant, évidemment, des médecins français, des chirurgiens sont entrés dans la bande de Gaza, sont dans des hôpitaux, et encore aujourd'hui, chirurgiens français témoignaient des bombardements qui avaient lieu sur l'hôpital Al-Quds. Et également le fait que, alors que le feu avait pris sur une aile de l'hôpital, l'armée israélienne avait empêché pendant plus d'une heure et demie les pompiers palestiniens de venir éteindre ce feu.
Comment les chiffres des victimes sont établis? Et est-ce que vous avez confiance dans ces chiffres?
Écoutez, les chiffres sont donnés par les médecins, notamment les médecins palestiniens. Mais donc le chiffre de 1000 est assez peu contesté dans l'ensemble, mais il est assez peu contesté dans ce qui peut être compté, et les organisations non gouvernementales, les organisations humanitaires qui ont l'habitude de ce genre de terrain pensent que quand on pourra rentrer dans la bande de Gaza, vu les dégâts considérables, le nombre d'immeubles détruits et de bâtiments détruits, le bilan risque vraiment, vraiment de s'alourdir. Il est plus de 1000 aujourd'hui. Je rappelle qu'au Liban, en 2006, il y avait déjà eu plus de 1500 civils qui avaient été tués. Malheureusement, on peut s'attendre à ce que ce soit pire, notamment parce qu'il y a beaucoup de blessés graves et que beaucoup décèdent dans les jours qui suivent.
Alors, Pierre Barbancet, là, vous allez vers Rafah, côté Égypte.
Oui.
Mais votre but, c'est de rentrer sur le territoire de Gaza par Rafah.
Ah, le but aujourd'hui, c'est clair, c'est d'essayer de rentrer dans la bande de Gaza par Rafah, parce que côté israélien, c'est totalement impossible, et notamment parce que en passant par Erez jusqu'à Gaza City, c'est les zones les plus non seulement les plus meurtries, mais où les combats les plus durs, les plus intenses ont lieu, dans les villes de Betlaya, dans les quartiers de Zeytoun notamment. Donc c'est très très difficile, et puis l'armée israélienne continue à empêcher les journalistes d'entrer. On va essayer de trouver des fenêtres d'opportunité pour rentrer dans la bande de Gaza, essayer de faire notre métier, pouvoir témoigner de ce qui se passe à l'intérieur. Mais voilà, je ne sais pas si nous allons pouvoir y arriver. Il faut que les autorités égyptiennes notamment nous permettent d'entrer, mais je crois que les gouvernements occidentaux, la communauté internationale doivent faire pression beaucoup plus forte et sur les Israéliens et sur les Égyptiens pour que les journalistes puissent entrer et faire leur travail correctement.
Ok, Pierre. Merci beaucoup.
Merci.
Allô?
Allô?
Oui.
C'est Salma?
Oui, c'est Salma.
Alors dites-nous un peu comment vous tenez.
Bon, en fait, pas très bien, parce qu'il y a tout le temps des bombardements. Et je crois que vous savez maintenant qu'il y a les bombes à phosphore, et ça, c'est vraiment très grave, ça.
Salma, vous avez quel âge?
J'ai 24 ans.
D'accord, vous êtes très jeune.
Ouais.
Vous êtes avec votre famille?
Non, je suis avec ma famille, en fait. Je ne suis pas mariée, j'habite avec mes parents et mes frères et ma sœur.
Uh-huh. Comment vous faites pour tenir, alors?
Bon, en fait, pour... je peux dire maintenant que pour les bombardements et tout ça, on s'est habitué un petit peu, mais c'est vrai que ça fait peur tout le temps, surtout quand c'est très proche de chez nous, en fait. Mais bon, pour d'autres choses, je peux vous dire que c'est vraiment très difficile. Pour les nourritures, de sortir et tout ça, c'est, c'est très dangereux, c'est très difficile. Moi, il y a mon père et ma mère parfois qui essayent de sortir, mais on reste à la maison, tous inquiets pour eux, en fait.
Mais il y a des trêves, on nous a dit qu'il y avait une trêve qui permettait de sortir et
ça
d'aller...
C'est vrai, en fait. Ben, nous, on entend parler de ça, mais on ne trouve pas... On voit vraiment, on ne sent pas cette trêve, pas du tout, parce que tout le temps, ils bombardent.
Alors, est-ce que vous avez essayé de partir? Est-ce que vous pourriez partir si vous vouliez?
Partir de Gaza?
Ouais.
Bon, en fait, moi, j'étais en France pour 2 ans. Bon, ça m'a plu de rester en France, mais j'aime beaucoup Gaza et c'est pour ça, en fait, je suis rentrée. Et alors, je ne pense jamais de sortir de Gaza.
Vous ne voulez pas partir de Gaza?
Non.
Pourquoi?
Bah, c'est en fait, même s'il y a la guerre ici et tout ça, mais je trouve que c'est mon destin, c'est mon pays que j'aime beaucoup.
Vous préférez mourir à Gaza que de vivre ailleurs?
Oui, ça c'est vrai. Parce qu'en fait, bon, j'ai essayé de rester en France 2 ans et il y avait tout le temps des événements à Gaza et j'étais tout le temps inquiète pour ma famille. Alors vraiment, je veux pas vivre ça. Je veux vivre avec ma famille, je veux sentir tout ce qu'ils sont. Et comme je vous ai dit, c'est mon destin.
Alors, est-ce qu'on vous parle de cesser le feu? Ici, en France, on parle de cesser le feu. Le cesser le feu serait pour bientôt. Vous y croyez?
Bah, je vous dis quelque chose. On doit le croire, en fait. Parce que, bon, c'est l'espoir qui nous fait vivre, en fait. Vous savez, vraiment, tous les jours, mon père dit, bon, demain, ils vont cesser le feu. Bon, demain, ça va s'arrêter. Demain, ça va passer. Et comme je vous ai dit, vraiment, c'est l'espoir qui nous fait vivre et qui nous fait continuer notre vie.
Et vous tenez votre blog? Vous faites un blog?
Oui, en fait, j'écris presque tous les jours. Bah, sauf s'il n'y a pas d'électricité, j'écris une lettre à mes amis pour leur expliquer ce qui se passe autour de moi.
Ok, Salma.
Bon courage.
Ouais. Je vous souhaite bon courage. Merci de nous avoir parlé.
Merci beaucoup.
À très bientôt.
Inch'Allah.
Bonne chance.
Au revoir.
جيم علي وعلي واسم الله جيم علي وعلي واسم الله متعني يا دنيا يا بابا جيم علي وعلي متعني يا دنيا يا بابا جيم زرعوني ويسمى الله حنطة زرعوني ويسمى الله بين الجروف والمغى يا بابا حنطة زرعوني بين الجروف والمغى يا بابا حنطة زرعوني.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, Michel Siboni. Vous êtes...
un des porte-parole de l'UJFP.
Union juive française pour la paix. Union juive française pour la paix. Oui, il y a d'autres voix juives. Il y a plusieurs voix juives qui s'expriment en France, même si c'est un cheval et une alouette. Et là, évidemment, c'est la voix de l'alouette. Alors, contrairement à ce que dit le CRIF, le président, plus exactement, du CRIF, M. Prasquier, qui déclare que 95% de la communauté juive en France est aux côtés d'Israël et de son armée, il se trouve...
C'est une phrase antisémite.
C'est une phrase que vous jugez antisémite.
Ben, pas que moi, hein. Jean-François Kahn dans Marianne, par exemple. Mm-hmm. Je crois que toute phrase qui généralise et agglomère une population entière autour d'une opinion est une phrase raciste. Je vois pas pourquoi ce serait pas valable pour les juifs. C'est-à-dire que ça désigne tous les juifs de France comme étant des gens qui soutiennent, attention, le crime de guerre, hein, en ce moment. C'est pas n'importe quoi comme phrase. Le crime de guerre d'une armée... qui est en train de tuer des hommes, des femmes et des enfants. Je veux dire, c'est monstrueux de dire une phrase pareille. Qu'il parle des juifs communautaires, de sa propre communauté organisée, militante, qui est visiblement un relais de la propagande israélienne en France, ça c'est une chose. C'est légitime pour lui. Mais qu'il nous implique à nous, les milliers et les centaines de milliers de juifs français qui n'ont parfois jamais mis les pieds dans une synagogue, qui ne se reconnaissent pas dans les normes communautaires ou communautaristes de la communauté juive, c'est scandaleux.
Oui, y compris ceux qui ont mis les pieds dans une synagogue et qui ne sont pas forcément d'accord avec M. Prasquier.
Absolument, absolument. Et des juifs religieux, et de toute la diversité que peut porter un nombre comme 5 à 600 000 personnes, enfin. Nous sommes dans une situation objective de crime de guerre. Il y a des dizaines d'associations qui sont en train de constituer des plaintes ou de travailler dans le juridique pour chercher comment on porte devant la justice internationale les coupables de ces crimes pour qu'ils soient punis. Parce que je crois que ça protégerait Israël, contrairement à ce que pensent certains. Je crois que la volonté internationale de ne pas appliquer la loi à Israël contribue largement à faire aux yeux des gens d'Israël un État hors la loi. À quel point c'est fondamental de s'exprimer quand on est juif et qu'on ne pense pas ce que pensent M. Pasquier et ses camarades, parce que dès que c'est vu et dès que c'est compris, on débranche tout l'exercice qui consiste à faire assimiler juif égal sioniste égal Israël égal soutien à n'importe quoi et aux crimes de guerre. Et immédiatement, on a des gens qui changent de tête, qui se mettent à sourire et qui disent « ok ». Et on débranche l'antisémitisme en faisant ça. Alors, il y a les gens qui sont des pompiers pyromanes, qui viennent allumer des feux de diversion pour qu'on oublie Gaza. Il faut qu'on parle de l'antisémitisme en France. Donc on allume le feu, et puis on vient l'éteindre en hurlant avec une lance à incendie, et en expliquant qu'on est la victime. Et puis il y a les gens dont nous faisons partie, et nous ne sommes pas les seuls, et il faut que nous ne soyons pas les seuls, qui vont parler avec les gens. Et on va pas donner des leçons de morale à des gens qui sont furieux parfois, et qui sont jeunes, et qui savent pas élaborer un discours politique. Mais on va juste expliquer, nous, ce qu'on pense de cette situation. Comment elle est injuste, et comment il n'y a pas de paix sans justice. Il faut donner les droits des Palestiniens, et les partager, que cette terre puisse être vécue et partagée par des gens qui ont les mêmes droits. Et à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Et tout de suite, on débranche la question de l'antisémitisme. C'est une question fabriquée, c'est un piège pour certains jeunes. Il y a un piège ouvert devant nos pieds. Tomber dans l'antisémitisme, vous dégradez la cause palestinienne, vous enlevez l'attention de l'opinion de la cause palestinienne pour la ramener sur un terrain français de l'antisémitisme et du racisme qui fait peur. Qui c'est qui gagne? C'est Tzipi Livni, c'est l'armée israélienne et c'est l'État d'Israël d'aujourd'hui.
Quelles sont les prochaines actions que vous envisagez à l'UJFP ?
Écoutez, d'abord, on est appelé partout en ce moment. Dans les banlieues, dans les grandes villes de province, on tourne tous comme des fous. Ce week-end, une mobilisation dans le cadre du collectif national des associations pour une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens. Une grande mobilisation délocalisé, c'est-à-dire partout devant les mairies, devant les préfectures, interpellation des élus, des veillées, la tente du ministère de la solidarité avec la Palestine qui est à Stalingrad à Paris. Tous ces lieux-là doivent être des appels à mobilisation et nous construisons la manifestation nationale du 24 qui aura lieu à Paris et qui, elle, vise directement le président de la République. Ça suffit, monsieur Sarkozy. Maintenant, tout de suite, vous arrêtez et vous sanctionnez. Voilà.
Michel Ciboni, merci, à bientôt.
À très bientôt, au revoir.
Merci à tous, donc Michel Ciboni de l'UJFP, merci à Pierre Barbancet, reporter, grand reporter à l'Humanité, merci à Mirvat Al-Rayes, c'est elle qu'on a entendue au début de cette émission, qui donnait son témoignage, merci à Uri Avneri, Monzer Choublage, Michael et Yehoud Shaoul de l'association Breaking the Silence. C'était une émission préparée avec Guy Vanctil et Anis Gandil. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire vos commentaires, ainsi que sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Rémi Quincet et Olivier Rieutor. Koyen Guyen et Raphaël Moutarde ont réalisé cette émission. Je précise que les choix de disques et de chansons seront sur le site de France Inter, la rubrique émission à la base du suis, parce que je suis sûr que vous allez demander les titres. C'était très beau et très très bien choisi. Merci aussi à Charlotte Perry et Agnès Lebot aussi, qui attend vos messages au répondeur de la base du suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Quant à Chomsky et compagnie, notre film documentaire, eh bien, il est projeté un peu partout en France ce week-end et dans les semaines qui viennent. Vous pouvez tout savoir sur labas.org. À lundi, 15h pour la Bas, si j'y suis. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse pour les infos avec Angélique Bouin. Salut.